Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une conférence qui s'appelle Corinne, qui est la conférence sur la réponse aux incidents et l'investigation numérique. Et pour discuter de ce sujet, nous recevons Eric Frayssinet.
Bonjour.
Alors Eric, tu es co-organisateur de cette conférence.
Oui, c'est organisé dans le cadre du CECIF avec un certain nombre de partenaires locaux dont je parlerai tout à l'heure.
Alors les contributeurs Nos Limites Sécu aujourd'hui sont JP Gaulier.
Bonjour.
Guillaume Lopez.
Bonjour.
Hervé Schauer.
Bonjour.
Vladimir Collat.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Uloa. Alors Eric, cette conférence, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ?
Oui, alors très rapidement, l'idée elle est venue de deux fils de réflexion. D'une part, depuis 2006, on avait créé une association qui s'appelle l'AFSA, l'Association francophone des spécialistes de l'investigation numérique, dans le cadre de laquelle on organise une conférence annuelle, les Journées francophones de l'investigation numérique, qui est plutôt fermée parce que réservée aux enquêteurs, aux experts judiciaires et à tous les gens qui tournent autour de ça. Et on a besoin d'une telle conférence fermée pour pouvoir discuter de certains sujets dans le détail en matière d'investigation. Mais d'un autre côté, depuis pas mal d'années, on s'est rendu compte que il y avait une communauté grandissante de l'investigation numérique au-delà du monde de l'enquête judiciaire. Et donc l'idée a commencé à germer dans ce contexte-là. Et l'AFSA est co-organisatrice de Corinne. Ensuite, dans le cadre du FIC, il y a 2 ans, dans le comité de programme, on s'est dit pourquoi ne pas organiser des événements en marge du FIC ou en parallèle du FIC, le Forum international sur la cybersécurité à Lille, qui est organisé tous les ans donc par la gendarmerie, CEIS et Eura Technologies, et avec des gens de l'université de Lille, Julien Higuchi en particulier, on s'est porté volontaire pour organiser une petite conférence scientifique en rapport avec les sujets du FIC, et très rapidement, les deux idées se sont réunies pour organiser cette conférence sur les sujets de l'investigation numérique et de la réponse à incidents, puisque ce sont les deux univers qui commencent à se rapprocher, tant sur le plan des outils, que sur le plan des méthodes, que sur le plan des formations, etc. Voilà, donc ça c'est toute l'histoire de cette conférence.
Combien de personnes cette année ?
On était plus de 170 participants, avec des enquêteurs, des experts judiciaires à nouveau, pas mal de monde de la réponse incident, des gens d'un certain nombre de certes, des gens du monde académique, pas mal d'étudiants qui ont profité de leur passage au FIC pour rester 24 heures de plus pour pouvoir assister à la conférence. Voilà. Donc un public assez varié qui correspond pas mal à l'objectif de la conférence, et un petit peu international, au sens où on avait quelques participants du Luxembourg, du Canada, etc. La conférence, pour l'instant, ou dans l'esprit, est plutôt francophone, hein. Il y avait que des présentations en français. On cherchait pas à attirer un public plus large dans l'état du projet.
Voilà. Je m'excuse de cette question préalable, mais finalement, parmi nous, qui a pu assister à cette conférence ?
Moi. Moi aussi.
Faut donner vos noms, parce que dans le podcast, c'est très terrible.
C'est terrible, parce qu'on ne reconnaît pas ma voix. Donc Jean-Philippe.
Guillaume.
Alors moi, j'ai pas pu y assister, puisque j'étais le même jour à une autre conférence, parce que malheureusement, l'actualité est très chargée. Donc j'étais à la conférence de l'université...
Qu'on ne citera pas.
L'université AFCDP des CIL, des correspondants informatiques et liberté, où on fait aussi beaucoup
sympa,
de sécurité.
Ah, c'est sympa, on parlait aussi.
Donc moi, j'y étais pas, donc comme ça, je pourrais les poser des questions naïves.
Il y avait aussi deux présentateurs lors de cette conf qui sont présents...
Joanne et Vlad.
Tout à fait, oui. Mais après, je sais pas trop si on peut s'exprimer dessus, étant donné qu'on y présentait.
Ouais, notamment Johan.
Avec une prestation très remarquée de Johan. Je sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais.
Johan, tu présentais quoi?
Je faisais une démonstration d'attaque ciblée.
Ah, tu arrives à t'en souvenir?
Ah oui, et bien entendu, l'attaque était réussie.
Alors, l'attaque était réussie, et puis si l'attaque avait échoué, il y avait une vidéo, et si la vidéo échouait, il y avait une blague.
Une histoire
mais
drôle.
La vidéo,
ouais.
La vidéo a fonctionné.
Mais on a quand même eu le droit à l'histoire drôle.
Ça, je sais pas si on peut le dire sur le podcast.
Bon, elle est mignonne.
Ah bah c'est Johan, hein, il peut la raconter, c'est sa blague.
Il y avait combien de, conférences? Il y a une seule session ou il y en a plusieurs?
Il y avait une seule session. Hein. C'était une conférence dans un amphi assez sympa d'Eura Technologies, donc qui héberge des entreprises du monde des technologies de l'information, notamment sur l'île. Et donc il y avait 7.
J'en ai compté
7 conférences.
Il y avait 7 conférences de 45 minutes et le programme était plutôt équilibré. On avait une 8e conférence potentielle qui n'a pas pu avoir lieu. Mais bon, ça correspondait aussi au souhait de pas trop déborder à la fin de la journée pour laisser aux gens le temps de rentrer vers la province ou vers Paris. Parce que c'était donc le lendemain du FIC. C'est aussi un peu l'idée de s'adapter à cet environnement-là.
Oui, parce que ça se terminait assez tôt, ça se terminait quasiment vers 16h. Oui, mais en plus, on était un petit peu en avance sur la fin, donc je pense que ça s'est terminé un petit peu plus tôt.
Ouais, mais c'est parce que Vlad était un peu court dans sa présentation. Oh.
mais je crois que l'année prochaine, par contre, la Corinne sera avant le FIC.
Ouais, comme la première année.
D'accord, donc ça nous laissera l'après-midi et la soirée pour se pinter en préparation du FIC.
Pour se sustenter, se divertir.
Tout à fait.
Oui, tout à fait. Et on espère que ce sera toujours le jour d'avant, parce que c'était quand même plus pratique l'année dernière que cette année organisée, mais c'était quand même sympa. Juste sur la question que posait Johan tout à l'heure sur les évolutions de la conférence... Vous pouvez en parler à la fin éventuellement. Elle est ouverte à l'international au sens de la francophonie. Donc, il y a notamment nos partenaires du B2 Center belge, du Centre d'excellence cyber belge, qui nous soutiennent dans l'organisation. Il y avait quelques participants belges d'ailleurs dans le public. L'idée, c'est de pas faire une grosse conférence internationale. Non pas parce que ça aurait pas d'intérêt, mais parce qu'il en existe déjà. Donc il y a DFRWS par exemple au niveau européen. L'idée c'est de contribuer à la naissance ou à la formation ou au développement d'une communauté qui rassemble justement les métiers de la réponse à incidents et de l'investigation numérique, pour lequel en France il n'y avait pas d'événements jusqu'à présent, ou alors
il n'y avait pas d'événements, mais d'excellentes formations sur la réponse à incidents.
Ouais, tout à fait. Mais c'est pas la même ambition. Là, c'est de faire se rencontrer des gens qui discutent, qui échangent, etc. Et puis vers un public plus large qu'au cours d'une formation. Et une des ambitions personnelles, hein, c'était pour moi aussi d'offrir aux gens qui viennent au FIC des choses plus techniques, plus pointues, qui sont difficiles à instiller dans le programme du FIC, hein, qui se veut plus généraliste, plus ouvert à un public plus large. Là, il s'agit de mettre dans une même salle des gens qui ont déjà une bonne pratique technique, quel que soit l'angle d'attaque sur ces questions de la réponse incident et de l'investigation numérique. Donc, qu'ils puissent échanger pendant toute une journée sur ces sujets-là. Ce serait très très compliqué à organiser pendant le FIC.
Et avant de rentrer plus en détail dans chacun des talks, peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer comment sont choisis les speakers?
Alors, c'est une conférence récente, donc on n'a pas énormément de propositions. Donc cette année, on avait une petite dizaine de propositions pour les 7 slots qui ont été sélectionnés.
Non mais tu peux le dire, on est là, même si on est là, tu peux le dire que pour Johan et moi c'était juste de la pitié. Hein. Tu peux le
pas
dire.
Pas du
hein.
tout. Par rapport à l'année dernière, on a une petite élévation du niveau qui était assez notable. Tout le monde a non, pu le remarquer.
Tu peux dire c'est simplement de la cooptation, c'est une méthode très classique.
Ah non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on fait un appel à proposition. Cette année, j'ai eu à solliciter personne, alors que l'année dernière, il a fallu que je pousse un certain nombre de gens. Si, il y a Vlad que j'ai un petit peu poussé, mais c'est tout. Il y a beaucoup de gens qui se sont manifestés d'eux-mêmes par intérêt par rapport à ce sujet d'échange, donc ça c'était sympa. Il y a Eve Matringe qui est une avocate qui exerce au Luxembourg, qui s'est signalée d'elle-même, hein, par exemple, hein, qu'on connaissait pas du tout encore ou que très peu connaissait et qui est venue se proposer. Donc c'était pas voilà, donc c'est un équilibre du côté de ça suscite pas mal d'intérêt et du coup on avait pas mal de propositions globalement qui tournaient beaucoup autour de la réponse à un incident et un peu moins ou beaucoup moins sur l'investigation numérique cette année. Toutefois pour moi le retour sur l'ensemble de la journée à titre personnel, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait des points de vue assez variés sur ces questions-là. Et on a quand même abordé les questions d'investigation aussi.
Ouais. Ce qui était notable, c'est que le seul speaker à avoir présenté des slides en LaTeX Beamer, ben, c'était justement la juriste. Donc, c'était assez inattendu.
C'était rigolo, ouais, tout à fait. Bah, c'est une méthode pour à conseiller, pas forcément Beamer, mais à conseiller pour quelqu'un qui aborde les questions du point de vue du droit ou du point de vue de l'économie ou des sujets pas directement en rapport avec la technique, de mettre un peu les mains dans le cambouis. Ça permet de se concrétiser réellement, de se confronter réellement à ce que vivent les spécialistes de ces questions-là. Par exemple, on a dans le cadre de l'AFSIN, un certain nombre de magistrats, et je pense à l'une d'entre elles qui s'amuse à installer des serveurs sous Linux, à regarder comment ça fonctionne, à explorer la configuration, les logs et tout ça. Bah, c'est des façons concrètes de partager, en plus de venir à des confs.
Alors, si on évoquait justement les conférences, la première, c'était un retour d'expérience sur la gestion de crise dans une entreprise.
Non, c'était l'analyse de code malveillant complexe.
C'était pas la tienne?
C'était l'analyse de code malveillant complexe avec Paul Rascanière et Sébastien Larigné.
Oui, c'est vrai.
Qui nous ont parlé d'analyse de certains APT. Donc c'était plutôt des techniques d'investigation et utilisables dans de la réponse à incident sur ce type d'incident. Qu'ils ont eu à rencontrer et pour lequel ils ont présenté un outil Fastia Responder qui est disponible gratuitement sur le GitHub de Sequoia.
Et si je ne m'abuse, ça faisait suite à la conférence de Paul et de Eric Leblond l'année précédente où Eric et Paul avaient montrer comment ils avaient remonté une attaque réseau, et là c'était un peu plus système, c'est ça?
Ouais, et puis ils montraient concrètement comment ils réalisaient l'approche technique pour comprendre le fonctionnement des codes malveillants.
Oui, ils montraient certains marqueurs de certains malwares en montrant voilà, là c'est NamePipe de tel type de malware. Et donc comment retrouver les différents malwares, que ce soit en mode user land, c'est-à-dire sans privilège spécifique, ou alors en mode kernel noyau, donc là avec par contre tous les privilèges.
Et d'ailleurs, c'est les premiers à m'avoir transmis leur PDF, donc il est disponible sur la page de la conférence.
D'ailleurs, c'est les seuls a priori.
Pour l'instant, ouais.
Ce sont les seuls, ouais.
Mais on attend Johan, qui est intervenu juste après, qui nous a fait une démonstration assez percutante sur l'hameçonnage ciblé. Alors, l'hameçonnage ciblé au sens spear phishing, hein, c'est ça, Johan?
Oui.
Alors, pourquoi tu as proposé ça?
Alors en fait, c'est issu d'un problème que je rencontrais qui était d'expliquer comment se déroule une attaque ciblée à nos clients. Et en fait, je me rendais compte en tentant de leur expliquer que ça passait pas quoi. Ils me posaient des questions sur ce qu'ils avaient, sur ce que j'avais expliqué précédemment. Donc je me suis dit faut que je fasse une démonstration. Donc j'ai fait une démonstration et avec un spear phishing au départ. Donc l'idée c'est d'envoyer un mail avec une pièce jointe qui est piégée à la cible. Donc, ce qui permet de compromettre la machine de la cible. Et puis, ensuite, j'ai fait voir ce qu'on appelle le mouvement latéral. Donc, à partir du moment où une machine est compromise, eh bien, l'attaquant peut exploiter, par exemple, des vulnérabilités sur le réseau interne. En l'occurrence, là, j'exploitais une vulnérabilité Kerberos qui permet de faire une escalade de privilèges et de gagner les droits administrateurs du domaine.
Le avec une belle démonstration de Mimikatz. Hein.
Et, oui. Ouais, et de Meterpreter, etc. Tous des outils assez accessibles et qui d'ailleurs sont parfois effectivement rencontrés dans des cas réels.
Ouais, tout à fait. L'idée c'était de faire voir aussi que les attaques ciblées sont certes sophistiquées, mais pas très très, pas forcément, pas systématiquement en tout cas, très complexes à mettre en œuvre. Donc l'idée, c'était aussi de démystifier les attaques ciblées.
Ce qui fait réfléchir sur ça, ce qu'on appelle effectivement attaque ciblée, est-ce que quand on parle des motivations des délinquants, de leur organisation, du lien au crime organisé, du lien à l'espionnage, etc., la frontière va être difficile à définir simplement sur le critère de l'attaque ciblée. Ça montre surtout une motivation, une stratégie et pas forcément un lien avec les délinquants les plus chevronnés. Donc ça pose pas mal de questions, cette évolution en fait, de la disponibilité de ces méthodes et de ces outils à beaucoup de...
T'as aussi la possibilité de traiter des attaques à la demande. Donc il y a de toutes les manières des gens qui te produisent les logiciels malfaisants qui vont bien, les attaques ciblées toutes faites, préparées par rapport au contexte que tu demandes, et tu payes pour avoir ton attaque ciblée. Donc de ce point de vue-là, à partir du moment où il y a les attaques à la demande en vente, ne serait-ce que sur le Darknet, c'est effectivement accessible à des gens qui n'auraient peut-être pas osé contacter des programmeurs, etc.
Ouais. Non, mais je pense que Eric nous faisait un petit coup de LCEN 323-3-1.
Non, pas du tout. c'est plus par rapport à la description du paysage de la menace par rapport à il y a 4-5 ans. C'est quand même très diversifié et on a face à nous justement un peu ce que décrivait Hervé à l'instant, c'est une plus grande disponibilité de pas mal de solutions. Parce que ce qu'a décrit Johan, c'était pas la version du pauvre, mais c'était une première approche, pas forcément très discrète, etc. Ce qu'a décrit Hervé à l'instant, la disponibilité à la demande de développement de solutions clés en main, c'est ce qui se développe de plus en plus. C'est facilement accessible et notamment pour ce type de stratégie. Et c'est pas forcément très cher.
Ce que j'en ai retenu, c'est que si preuve en était, puisque Johan a fait la démo d'une attaque Kerberos qui est pas très vieille, c'est que si ton système d'information est pas à jour, quoi qu'il arrive, l'attaquant, une fois rentré, fait ce qu'il veut sur le SI, hein, en quelques minutes.
Et si tes personnels sont pas formés, pas sensibilisés à ces questions-là, ils vont cliquer très vite sur les pièces jointes, ce qui est une stratégie très courante aujourd'hui.
Alors, on n'en a pas parlé, parce que effectivement, Johan, est-ce que tu peux nous dire qui a été le personnage principal de ta présentation?
La cible, c'était Homer Simpson, le pauvre.
Et est-ce que tu peux nous faire ce sur quoi tu t'es préparé pendant des semaines, s'il te plaît?
Non.
Allez,
j'ai oublié.
Il a oublié. D'ailleurs, je vais avoir un problème avec ces slides parce que je suis pas sûr de pouvoir publier des slides avec des images de Mère Simpson, Johan. Donc, il faudra peut-être que tu censures.
que je retire le slide avec.
Sinon, tu mets une photo d'Eric, ouais. Ça sera plus simple.
Donc très sympa, j'aurais peut-être dû placer d'ailleurs la présentation de Johan au tout début de la journée pour réveiller les gens et puis les mettre dans le bain.
Oh, la présentation de Paul et de Sébastien, ouais, mais elle était bien
elle était
vivante.
Très technique. Elle est, ouais, tout à fait. Mais elle était très technique et pour le coup, peut-être que Johan aurait mieux été placé en introduction de tout ça. Donc petit mea culpa sur l'ordre des présentations.
Ouais. Bah, t'as la suivante qui était distrayante aussi. Hein.
Attends, juste de Vincent. Deux petites remarques par rapport à ce qui a été dit, par rapport aux outils en fait, on parlait d'attaque avancée avec des outils dédiés, mais en audit on utilise beaucoup les outils, ciblées, mais en audit on utilise souvent ces outils et tant que ça marche, pourquoi changer? Pourquoi s'embêter à coder ses propres outils ou à dépenser ses propres outils et donc leur signature, alors que MetaPrêteur ça marche très bien, envoyer un mail avec du phishing ça marche très bien. Et l'autre remarque c'était par rapport au clic, il y a des utilisateurs, c'est ce que moi je disais dans ma presse, il y a des utilisateurs dont le métier c'est de cliquer. Tu prends par exemple les RH, une RH, son métier c'est d'ouvrir les CV que tu lui envoies par mail. Donc tu peux pas lui dire ne clique pas, il faut trouver d'autres solutions.
C'est le principe de l'ingénierie sociale. Oui, mais on le résoudra pas si on sensibilise pas les gens. Et il faut qu'ils se méfient. C'est-à-dire que effectivement, leur métier c'est de cliquer, mais c'est pas forcément de cliquer sur tout et n'importe quoi. Et ton métier à toi ou le métier de ceux qui le sécurisent, c'est pas forcément de permettre à tout et n'importe quoi de parvenir dans la boîte aux lettres de ces personnes-là.
Que de dire, on peut pas dire aux gens de cliquer.
Non. En plus, je suis pas d'accord parce que j'avais fait un audit pour un client. On avait créé un vrai faux profil de nana commerciale avec un vrai faux CV. Tout était vrai. On avait même mis un numéro de téléphone. On avait acheté une puce dans un petit magasin pour avoir un vrai téléphone. Et c'était une fille. Enfin, c'était en plus ma femme qui était au bout du fil pour si jamais on appelait. Donc tout était semblait vrai. On a mis une vraie photo qu'on avait un peu maquillée pour qu'on puisse pas la retrouver avec du Google Images, etc. Enfin, t'es obligé de te faire avoir dans des conditions comme ça.
Et donc, elle avait envoyé quoi ?
Qu'est-ce qu'on avait envoyé ? On n'avait pas envoyé un CV, on a envoyé un mail de candidature spontanée en disant « Regardez, si vous voulez, j'ai tous les détails sur mon blog Google ». Donc on avait fait un blog sur Blogueur de Google, ce qui paraît quand même légitime. Dessus, on avait envoyé un lien vers une applet Java qui exploitait une 0D sur Java, enfin une 0D, une vulnérabilité Java qui a pas été corrigée pendant des mois et des mois, enfin nulle part. Et voilà, et ça a marché. Mais c'est tellement facile.
D'un autre côté, tu peux pas en vouloir aux utilisateurs de se faire avoir par un 0D.
Ah oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord.
Non mais là t'as fait compliqué, t'aurais pu lui envoyer juste un Word avec une macro.
On avait voulu s'amuser aussi, mais former les utilisateurs, leur dire de pas cliquer sur tel document, enfin ça me paraît tellement compliqué.
C'est pas suffisant, mais en tout cas il faut leur dire que si jamais ils ont un doute, enfin quand ils vont recevoir un mail, qu'ils soient éveillés et qu'ils se disent que peut-être potentiellement c'est une menace.
Moi je suis d'accord avec Joanne, il faut persévérer dans la sensibilisation des utilisateurs parce que l'expérience montre qu'il y a un grand nombre d'incidents qui sont détectés par l'utilisateur.
Exact, voilà.
L'utilisateur qui reçoit un fichier Word ou Excel où il a un petit doute, il passe un coup de fil à son correspondant, l'autre lui dit bah non, c'est pas moi qui te l'ai envoyé, et puis le tour est joué. Donc parfois pour détecter une tentative de compromission, l'utilisateur est le maillon fort du système.
Et s'il l'a cliqué, s'il a ouvert, etc., c'est la suite qui va lui dire que c'était bizarre. C'est-à-dire, soit il n'y a pas de répondant, alors tu dis que tu as créé un scénario un peu complexe, mais qu'est-ce qui va se passer derrière ? Il y a plus d'interaction, il n'y a plus de contact, etc. Enfin, il faut, si quelque chose lui met la puce à l'oreille, si l'ordinateur réagit bizarrement, il faut que l'utilisateur il sache... contacter rapidement l'équipe qui est chargée de la sécurité dans sa structure, même si il a cliqué, effectivement.
Oui, j'ai pas malheureusement grande foi en l'être humain là-dessus. Je pense que c'était une présentation sur le phishing ou sur une tentative d'hameçonnage en audit où la personne répond. Je crois que c'était à toi que c'était arrivé, Guillaume. Oui, je sais que vous êtes en train de m'attaquer. J'ai bien vu ça et dans la seconde d'après, a donné son mot de passe, quoi.
Mais à force de répéter ce genre de choses, on progresse un petit peu, petit à petit, quand même. Et puis,
Ouais, mais le problème, c'est qu'il en suffit d'un. Donc, effectivement, tu vas réussir à sensibiliser les gens. Il y en a beaucoup plus qui vont faire attention. Il suffit qu'il y ait une personne à un instant donné, finalement baisse sa vigilance et se fera voir.
C'est pour ça que la sensibilisation à elle seule ne suffit pas et qu'il faut un ensemble de moyens pour essayer de minimiser les risques.
Tout à fait. C'est une excellente transition vers la conférence suivante de Vincent Nguyen. Qui nous est un retour de gestion de crise. Alors moi je lui ai dit hein, je peux pas y croire. C'était tellement énorme que je peux pas y croire. Il nous a quand même expliqué à un moment dans sa gestion de crise qu'il y a des gens qui étaient tellement fatigués, excités, etc., que les gens se tapaient la tête contre les murs en salle de crise, quoi. C'est juste hallucinant.
Bah que des gens s'énervent au cours d'une crise, ça c'est fort fort possible. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il nous a décrit toutes les phases, et notamment comment lui, il vivait. Je pense qu'il a rassemblé son expérience sur tout un tas d'événements différents, et il les a condensés en une seule présentation. Sa difficulté à se nourrir pendant la gestion d'événements, parce qu'on lui offre que des pizzas, qui est un détail à deux balles, mais qui montre en réalité que personne n'est préparé à gérer ça. Et personne ne comprend comment il faut traiter les intervenants extérieurs chargés d'apporter de l'assistance. Il nous a parlé de coûts, donc de choses très concrètes, de conséquences de tout ce qu'il faut gérer après une telle crise. Et puis on a parlé du rôle des différents acteurs dans une structure. Et des interactions avec les équipes qui arrivent pour faire la réponse incident, c'était quand même pas inintéressant du tout. Hein.
Il y a une chose qui était, à mon sens, très intéressante. Alors, il l'a pas dit ou il l'a dit en filigrane, c'est que les gens qui étaient là pour gérer la crise, le DSI, le RSSI, etc., étaient totalement incompétents sur leur domaine.
Ouais. Ce qui est sûrement assez courant dans des structures qui sont pas préparées, hein, parce que c'était l'objectif de sa présentation. Et puis même quand on est préparé, on n'est pas forcément préparé à tout. D'où l'intérêt de partager les expériences. Moi, j'ai trouvé ça sympa.
La crise est aussi un moyen de mesurer et de juger de la réalité, de la compétence de certaines fonctions dans l'entreprise.
Ça te permet aussi de savoir si tu as fait des documentations qui te permettent de réagir en mode crise, parce que quand la crise arrive, bah, tu te rends compte que tu perds potentiellement une certaine capacité à réfléchir, et c'est pour ça que nous, tous les gens qu'on conseille et qu'on voit, on leur dit écrivez des procédures, écrivez des politiques pour pouvoir réagir au moment où la crise arrivera.
C'est la base des formations à la gestion de crise.
Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était la conférence la plus intéressante de la journée. C'était vraiment un retour d'expérience intéressant. Il donnait plein de tips, en fait. Moi, je trouvais que c'est ça qui était bien. Les différents aspects sur la méthode, ce qu'il avait employé. Et surtout, par exemple, un truc tout bête, mais de se dire, effectivement, quand ils ont mis en place l'investigation, en fait, il y avait deux équipes. On avait une qui faisait l'investigation pour savoir ce que l'attaquant avait fait sur le SI. Essayer de récolter le maximum d'informations, de preuves, pour savoir par là où il était passé, les serveurs compromis. Et ensuite, il y avait une seconde équipe qui commençait à travailler sur la rémédiation de l'attaque. Enfin, ce qu'ils appelaient, je regarde mes notes, la préparation du plan de défense. Donc ces deux équipes travaillaient conjointement. Et c'était intéressant de se dire, effectivement, pendant l'investigation, il faut tout de suite préparer à l'après, qu'est-ce qu'on va faire pour corriger les problèmes et pour éviter, stopper l'attaque et éviter que l'attaquant puisse revenir.
Enfin, l'attaque présentée, en tout cas, était quand même assez grossière parce que tous les flux de communication passaient sur des ports 9000. Alors, il n'a pas présenté l'architecture du SI auquel il s'intéressait, mais si tu faisais une analyse rapide de tes firewalls, tu voyais que quelque chose n'allait pas. Donc, c'était globalement intéressant sur le retour d'expérience. Moi, je suis resté sur ma faim, sur la partie technique, parce que ça nécessitait pas, à mon sens, alors c'était peut-être dû à la présentation, hein, mais autant de ressources et de jus de cervelle qu'il présentait pendant son retour. Mais encore une fois, comme le disait Eric, c'était probablement un condensé de plusieurs expériences.
C'est vrai qu'elle était pas très technique, mais après, en même temps, je pense qu'il pouvait pas donner trop d'informations. Enfin, moi, de ce que j'en ai compris, c'est que le client, il avait surtout un réseau à plat et, enfin, sur le slide qu'il a montré, le serveur web qui est placé au même endroit que les postes de travail et les serveurs, ça pue un peu, quoi.
Ça, c'est une entreprise normale.
Non, mais c'est non, vrai, hein, ce que dit Hervé, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises avec des réseaux à plat.
Il n'y a pas longtemps, des comme ça. Qui ont fait la une de l'actualité, mais dont les responsables n'ont pas été inquiétés.
Oui, bon, d'un autre côté, on a bien vu DigiNotar avec ses 14 DMZ se faire pourrir intégralement. Donc finalement, vive les réseaux à plat.
On déborde. Alors, la conférence suivante.
C'était Eve Matringe, donc, qui est avocate au barreau de Luxembourg, et qui avait intitulé sa conférence « La règle du boomerang », c'est-à-dire faire attention aux outils et aux méthodes que tu utilises pour ou contre ce qui pourrait t'arriver en retour. Et donc, par exemple, les risques qu'on pourrait prendre à vouloir répondre à une attaque, et les risques juridiques que ça entraînerait pour celui qui s'adonnerait à cela. Par exemple, attaquer le serveur de l'attaquant pour collecter des preuves, pour se venger, etc. Et donc, elle a bien décrit les différentes situations et surtout, je pense, lancer le débat, faire réfléchir les gens dans la salle, etc.
Ouais, bah, sur le sujet de la légitime défense.
Ouais, c'était assez marrant sur le sujet de la légitime défense. Elle a donné une anecdote sur une femme qui s'est fait agresser dans un bar. Cette dame a donc répondu avec une chaussure à talon aiguille. Si j'ai bien compris, elle a atteint l'œil de son agresseur et le juge a dit que en fait la réponse n'était pas proportionnée parce que cette dame était accompagnée d'amis et que ses amis auraient pu la défendre plutôt qu'elle crève l'œil du gars. C'était totalement surprenant. Et l'autre chose qui était surprenante, c'est que elle, si j'ai bien compris, alors j'ai pas mes notes sous les yeux, mais disait bah oui, pourquoi pas. Ça dépend de ce qui est attaqué, pourquoi pas. Et là, je pense qu'un juge dirait, bah non, pas du tout. En fait, on maîtrise tellement peu ce qu'on va appeler le cyberespace ou Internet que c'est juste impossible de faire une réponse parce que ça se trouve, tu vas taper sur quelqu'un qui est innocent et qui a simplement servi de rebond et qui est une victime.
C'est le risque principal, hein, effectivement, quand tu envisages une riposte. Juste rappeler les critères de la légitime défense, aussi bien dans le droit français que dans le droit européen, qu'au niveau international, y compris dans le droit des conflits, il faut que ce soit simultané, immédiat, il faut que ce soit nécessaire pour la protection des personnes et des biens, et il faut que ce soit proportionné. C'est les trois grands critères, hein. Simultané, nécessaire et proportionné.
Ce qu'elle disait, elle, dans le simultané, c'est que dans le cas d'une réponse par une attaque informatique, le simultané dépendrait sûrement de si on était une entreprise multinationale ou si on était un petit individu, enfin un individu, une personne physique, en disant bah, peut-être que le juge se dirait si une personne physique répond au bout de 3 jours, bah, peut-être ça serait correct, alors qu'une multinationale, si elle répond au-delà des 5 minutes ou de l'heure, bah là, c'est plus de la légitime défense, mais c'est de l'attaque.
La détecter. Oh non, la grande entreprise, c'est plutôt 6 mois, 1 an, le temps qu'elle détecte l'attaque.
Ha, ha, ha.
C'est bah, le temps typique pour les attaques en profondeur. On parle de 300 à 500 jours, non, je sais plus.
Je crois que c'est 352 jours.
Voilà. Bon, ça dépend qui sort les stats, mais c'est souvent très long. Mais après, faut savoir quel est l'objectif. Donc, je citais quelques objectifs de la riposte. Clairement, la vengeance ne peut pas être un motif légitime en droit. La pure vengeance. Détruire l'attaquant pour l'empêcher de continuer à réaliser l'attaque. En théorie, ça pourrait l'être. Donc, détruire la capacité de l'attaquant, détruire ses serveurs, etc. Mais donc, ça suppose de connaître effectivement où est l'attaquant, si c'est pas un tiers sur lequel on rebondit, comme tu le disais, JP.
Et détruire l'attaquant. C'est pas les États-Unis qui avaient proposé de faire une réponse militaire à des agressions numériques il y a peut-être un an ou un peu moins que ça, non?
Je
confirme.
C'était une réflexion sur effectivement leur doctrine d'emploi de la force. Et un peu, je pense qu'Eve s'est un peu prononcée là-dessus et a dit que peut-être ça pourrait dans certains cas être légitime. Ça se discute évidemment. Et le troisième cas, moi qui me semble le plus intéressant, c'est attaquer en riposte pour collecter des preuves, collecter des informations, comprendre ce qui se passe, etc. Vérifier que il n'y a pas des données qui ont été exfiltrées, etc. C'est quand même très très risqué tout ça. Tu commets des infractions en général dans un autre pays et tu n'es pas certain d'avoir la protection de ton droit national sur cette commission d'infraction-là. Et donc, pour un particulier comme pour une organisation, une entreprise, c'est quand même très, très risqué.
C'est pour ça qu'il faut faire appel à des professionnels du métier.
Ouais. Et après, ça pose des questions de déontologie qui moi, me paraît un vrai sujet intéressant. Il n'y a pas de vrai code de déontologie des métiers de la réponse incident. Il y a des règles techniques, il y a des normes, mais il y a pas de déontologie, notamment pas de déontologie appliquée au droit. Et donc ça pourrait être un débat intéressant d'avoir un vrai code.
Enfin, moi je t'avoue que j'étais embêté par son approche parce que j'aurais pas voulu qu'elle me défende du coup.
Bah, elle était provocante, hein. Et donc c'était tout l'intérêt de la présentation. Mais on aurait pu avoir un panel avec une discussion avec différents points de vue.
Mais la vraie question, c'est est-ce qu'il y a eu déjà des cas où des entreprises ont riposté contre un attaquant?
Oui, tu as une entreprise américaine qui s'appelle CrowdStrike qui en fait sa pub d'ailleurs et qui, parmi leurs différents métiers, font ça justement. La réponse à un incident offensive et donc de pirater les pirates.
D'accord, mais est-ce que les pirates ont porté plainte?
Je
parce
ne
que
pense
finalement
pas.
Tout le débat est là quoi. Enfin, je veux dire, en vrai, si t'es une entreprise qui veut riposter, soit tu le fais pas directement par toi-même et tu passes par, comme le disait Hervé, une entreprise spécialisée pour attaquer ceux qui t'embêtent quoi.
Bah, après, est-ce que les mafias portent plainte entre elles quand il y a ce genre d'incident? Je sais pas trop.
Ils ont la Kalachnikov. Hein.
Il y a quand même un gros risque par rapport aux tiers. Hein. T'as de grandes chances d'effets collatéraux. Donc c'est eux qui risquent de porter plainte. Quant à ce que des vrais délinquants déposent plainte, méfiance, surtout si c'est dans le même pays, là il y a de fortes chances qu'il y ait un dépôt de plainte en réponse.
Ouais, mais si c'est dans le même pays, que tu te fais attaquer par quelqu'un qui est dans le même pays que toi, en général tu vas plutôt porter plainte tout de suite.
Bah j'espère. Ouais,
enfin, non mais là tu vas lui péter la gueule directement.
Mais enfin Vlad,
dans la vraie vie, ça se voit des agresseurs qui vont porter plainte avant que la victime n'arrive pour porter plainte elle-même. Hein.
Tout à fait, c'est pour ça que je disais ça. Ouais.
Ce sont des histoires vraies. Alors après, on a eu le moment le plus passionnant de la journée.
Le buffet.
Qui était quand même vachement moins bien que l'année dernière.
Ouais, il y avait moins de trucs chauds. Enfin, il n'y avait pas de trucs chauds.
Ouais. Bon, il était bien.
Ouais.
L'année dernière, on avait des petits burgers. C'était un réel.
Il n'y avait pas d'alcool.
Allez, on passe vite sur le buffet et on attaque la conférence suivante.
Ah tiens, si, je rappelle au passage, la participation aux frais était de 10 euros et était gratuite pour les étudiants. Et le reste était pris en charge par le CESIF hein, sur son budget propre. C'est une conférence qui a coûté, je me rappelle plus du détail, mais on doit être dans les 2700 euros au total. À organiser, on a récolté à peu près 1000 euros des participants.
On pouvait donner un pourboire hein, quand on payait sa place.
Ouais, mais c'était pas pour l'association, c'était pour le prestataire de paiement qui ne fait pas payer les transactions.
Et d'ailleurs, comment vous réussissez à organiser une conférence avec, on va dire, une absence de ticket d'entrée? Parce que 10 euros pour les participants et gratuit pour les étudiants, on peut estimer que c'est une absence de ticket d'entrée. C'est les sponsors qui
finance? Non, c'est le CESIF sur son budget, comme je te disais. Et d'autre part, le fait que c'est Aura Technologies qui nous héberge gratuitement dans ce lieu qui est très sympa.
D'accord.
C'est pas très coûteux à organiser si t'as ces deux conditions. Dans le budget du CESIF, on avait décidé qu'on organiserait une ou deux conférences par an Donc ça fait partie des choses qu'on prend en compte.
D'accord.
Grâce aux cotisations de nos membres et aux dons.
Après le repas, on a enchaîné sur quelque chose d'un peu plus technique.
Ouais.
La conférence de Jean-Baptiste et Alexandre.
Alors il n'y avait que Jean-Baptiste qui était là sur la surveillance de circonstances, c'est-à-dire ce que tu mets en œuvre dans le réseau pour collecter plus d'informations, pour comprendre ce qui se passe dans ton réseau.
Je ne suis pas sûr que tous les auditeurs comprennent ce que c'est que la surveillance de circonstances. Parce que même si on connaît les sondes dans les réseaux, là, ça peut échapper quand même.
Tout le monde dormait pendant cette conférence.
Non, mais il avait dit que la surveillance de circonstances, il a fait référence au référentiel PRIS. Mais bon, je ne sais pas s'il y a dans l'assistance des gens qui se positionnent pour ce référentiel de l'ANSSI.
C'était une des conférences de l'année dernière, ça d'ailleurs PRIS, puisque l'ANSSI était venu en parler. Alors en fait, ce qu'ils ont exposé, c'était pas tellement les technologies, même s'ils en ont un peu parlé pour le coup, mais c'était leur méthodologie qui est adaptable, autonome et flexible. Et puis il a décrit quand même les types d'outils qu'ils utilisent. Ils utilisent beaucoup d'outils open source dans leur stratégie. Et je pense que c'est beaucoup sur la stratégie elle-même et sur l'organisation de l'équipe. Il était assez convaincant hein, dans sa présentation de cette stratégie. Voilà. Mais c'était un partage intéressant d'un point de vue. Moi, j'ai trouvé ça sympa.
Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que quand on regarde les statistiques des gens qui montrent comment des attaques sérieuses ont été détectées, mais finalement, souvent, les outils d'analyse réseau et les études de corrélation derrière sont un des vecteurs non négligeables de détection d'attaques malfaisantes.
C'est clair. Alors, conférence suivante ?
Alors, la conférence suivante, c'était un retour sur regarder ce qu'il y a dans la mémoire RAM. Et sur particulièrement, ils sont appuyés sur essayer de retrouver des images et de reconstituer des images que tu aurais.
Mais ça, c'est de l'investigation numérique, c'est pas de la réponse à incident.
Exactement. Qui est l'autre sujet de la conf.
Ah, ça fait aussi conf d'investigation numérique. Ah non, pour moi, c'est un autre sujet.
Alors, le IN de Corinne, à la fin, c'est investigation numérique.
Hervé, tu n'as pas écouté le début.
Ah bah oui, d'accord. Bon, d'accord.
Non, mais tu viendras l'année prochaine.
si la date est bien choisie, je serai là.
C'est le 23 janvier 2017. Alors, l'objectif premier de la présentation, c'était de montrer que la stratégie face aux données qu'on retrouve dans la RAM, elle doit s'adapter à l'objet qu'est la mémoire vive. Et donc, c'est pas un disque dur sur lequel sont stockées des données. C'est un espace où les process et le système lui-même, et puis les process du système, stockent de l'information. Ensuite, il y a d'autres paramètres comme la pagination, et puis le, comment on appelle ça, le fait que le système stocke une partie de la mémoire sur le disque dur, ça s'appelle le swap. Le swap, oui, voilà. Et donc la pagination et le swap sur le disque dur en général fait que il faut des outils adaptés qui sachent reconstituer tout ça. Comprendre où sont les process, où ils stockent l'information, l'impact qu'a la pagination, l'impact qu'a le swap sur la récupération de l'information. C'est pas nouveau, donc c'était surtout démonstratif. Ils se sont basés sur les outils open source, mais il y a aussi des outils moins open source qui existent, et ils voulaient démontrer que il fallait faire attention à pas se contenter d'un simple carving, hein, qui est la façon classique de récupérer des fichiers dans un support. Voilà, ça n'avait pas d'autre ambition que ça, que de partager cette expérience-là.
C'était intéressant de montrer que tu agis différemment en fonction du contexte où tu te places. On a cité, entre autres, puisque c'était du traitement d'image, l'excellent soft Photorec. Mm. Où les conférenciers disaient, bah oui, une fois qu'on a réussi à reconstituer l'espace mémoire pour stocker les fichiers correctement, à ce moment-là, on peut passer Photorec et on a de très bons résultats. Mais ils montraient bien que tant qu'on n'avait pas fait ce travail que tu viens d'expliquer, ça servait à rien parce que la structure elle-même de la mémoire et le fonctionnement de la mémoire et de la pagination et du swap rendait cela impossible, en tout cas avec les process habituels d'investigation.
Je pense que ça montre surtout que, encore une fois, sur ce type d'intervention, on ne s'improvise pas. C'est un métier très technique, donc il faut faire appel à des professionnels.
Ouais. Et juste pour, je sais pas ce que tu cherches à vendre. Et juste pour rebondir sur ce que disait Hervé sur l'investigation numérique. Une grosse partie technique de la réponse à incident, ça va être justement de comprendre l'incident. Et donc ça suppose des méthodes d'investigation. Et donc pas récupérer des images, évidemment, qui était l'exemple donné, mais récupérer des artefacts en rapport avec l'attaque dans la mémoire vive d'un système qui a été attaqué, par exemple dans lequel on retrouve un logiciel malveillant, c'est des méthodes assez classiques utilisées par des spécialistes de la réponse à incident. Donc c'est là que ça se rapproche beaucoup.
Alors on peut quand même noter, avant de passer à la dernière conférence de la journée, que le logiciel libre a été mis à l'honneur tout au long de la journée. Donc soit le terrain est vraiment occupé par des gens du libre là-dessus, soit tous les conférenciers qu'on avait sont trop pauvres pour pouvoir s'acheter des outils propriétaires.
Ouais, ou ça permet plein de développement, et justement nos deux jeunes conférenciers là ont montré qu'ils avaient développé un outil pour présenter les informations issues de la mémoire d'un process de webmail. Donc là, en l'occurrence, dans l'exemple, c'était sur du Gmail, mais aussi ils ont montré ce qu'ils arrivaient à faire avec Facebook, avec Twitter, etc. Donc tu récupères le process de l'onglet qui contient le webmail en cours d'activité, et ils ont montré qu'ils arrivaient à restructurer, représenter l'information qui était dans la mémoire associée à ce process, et par exemple afficher les mails tels qu'ils sont affichés, voire même un peu plus loin, puisque pour certains webmails, dans la mémoire, le mail est déjà chargé alors que l'utilisateur ne l'a pas cliqué pour l'afficher. Donc, ça permet de récupérer plus d'informations. Et alors, je ne sais pas où ils en sont sur le partage futur de cet outil, mais c'est quelque chose qui...
Il y avait même les messages instantanés aussi, de Hangout, par exemple.
Exactement, ouais. Donc, c'est intéressant.
Et alors, la dernière conférence, mais pas la moindre, par un illustre inconnu, un certain Vladimir.
Ah, donc c'est vraiment international. Alors, vous avez des conférenciers qui viennent de l'Est.
Ouais, au moins.
De
ouais.
La mafia russe.
D'ailleurs, je pense que Vlad, t'as perdu ton anonymat sur Twitter. Hein.
Oui, mais bon, c'est pas très grave.
C'est l'anonymat.
Vlad, alors, résume-nous ta présentation.
Sans faire de blagues.
L'idée c'était de... Alors en fait non, c'est à la base c'est effectivement toi Eric qui m'a proposé de présenter, puisque avant un mardi de l'OSIR, nous avons été lâchés par un présentateur, un speaker, ce qui fait qu'il fallait meubler, et donc Harry, Cocos et moi-même avons décidé de faire une présentation chacun à l'arrache d'une petite demi-heure, et donc j'ai repris en gros un audit qu'on était en train de terminer sur une investigation sur tout un SI d'une entreprise. Et donc j'ai repris ça en la complétant des avancées, et voilà, et c'est ce que j'ai présenté. Donc un audit à la fois sur alors je maquille les chiffres, donc plusieurs milliers de postes de travail, plusieurs centaines de serveurs, toute une infra web et aussi des caisses.
Et les données que tu as pu récupérer sur la compromission de ces machines et t'as partagé des informations intéressantes sur les taux de compromission par système d'exploitation, par périmètre, etc.
Oui, et au final, moi, en tout cas sur ce cas-là, j'avais pas de conclusion par rapport au type de compromission parce que j'avais par exemple, du Windows 8 sur des tablettes compromises, du Windows 7 sur des PC portables compromises. Enfin, il n'y avait pas d'éléments de corrélation, enfin spécifiques, qui permettaient de dire ah oui, c'est toutes les personnes qui ont les ordinateurs portables sous Windows XP qui sont compromises. C'était pas du tout le cas.
Ah, c'était pas trop surprenant non plus.
Ouais, après tu peux te dire que sur une attaque spécifique, tu peux quand même avoir une famille de cibles plus exploitées. Là, c'était vraiment pas le cas. Il y avait un petit peu de tout partout. Les stats aussi de compromission étaient pas si élevées que ça. C'était aux alentours de 6%. Donc c'est pas si énorme que ça. Ce qui prouvait qu'en tout cas dans ce contexte-là, la sécurité périmétrique qui était mise en place, c'est-à-dire finalement de l'antivirus, du firewall et du proxy bien géré, bah ça faisait quand même un peu le taf.
Et une des suites de cet audit, ça a été d'améliorer justement tous les process qui étaient en place.
Oui, tout à fait. Oui. Tu veux que les détails
Ouais, peut-être. Ouais. Faire partager nos auditeurs.
Oui, effectivement, parce que comme je ne publierai pas mes slides.
Enfin, ce qu'on peut noter pendant que tu recherches tes petites affaires, c'est que la sécurité du SI que tu nous présentais était plutôt pas mal et que l'entreprise s'intéressait, enfin avait une vraie culture au moins sur l'infra de ce qu'il fallait faire, puisque c'est la DSI de mémoire qui t'a demandé de faire un audit pour savoir où ils en étaient, alors même qu'ils n'ont pas d'organisation de la sécurité.
Oui, c'était ça, effectivement. La DSI est une personne de poigne et effectivement assez intéressée par la sécurité. Et avec qui donc on a abouti à cet audit. Mais précédemment à ça, effectivement, la personne a fait mettre en place tout un certain nombre d'éléments de sécurité, bon, encore une fois plutôt périmétriques, mais qui font que le SI de l'entreprise est plutôt pas mal fait, pas mal géré et pas mal protégé. Et une des décisions à la suite de cet audit, mais pas que, ça a été d'embaucher un RSSI.
Mettre en place de la supervision sécurité, je me rappelle d'après mes notes.
Oui, il y avait ça aussi parce que cette entreprise fait de la supervision classique en termes de disponibilité, c'est-à-dire supervision de toutes ses ressources, mais pas de supervision en termes de sécurité. Donc ça aussi, c'est un point d'amélioration qui a été mis en place, donc de faire de la collecte et de la centralisation des logs, éventuellement de poser une sonde sur le réseau, des choses comme ça, pour être plutôt proactif, savoir réellement ce qui se passe, avoir plus de visibilité sur ce qui se passe sur le réseau et détecter des attaques, mais pas que finalement, aussi des dysfonctionnements, voilà.
Ouais, il y a une conclusion qui était pas inattendue, mais qui était intéressante, c'était que même une entreprise où on a pris beaucoup de précautions, il y a forcément une atteinte. Hein, ce qu'on répète souvent, c'est que t'as 100% de chance de t'être fait attaquer et que ça ait réussi. Là, c'est assez bien illustré. Et ça montre l'intérêt de faire des audits, c'est-à-dire d'évaluer ta situation, y compris de façon assez approfondie sur ton réseau. Et ça, c'était un truc pas évident.
Je nuance, si tu permets, Eric, à une chose près. C'est-à-dire que je suis totalement d'accord avec toi, mais il faut qu'il y ait une chose primordiale au début de tout ça, c'est que il y a une volonté de faire avancer les choses si l'audit révèle des faiblesses. Et là, c'était le cas avec cette DSI, ce qui a permis qu'il y ait eu du changement. Mais si on fait juste un audit pour dire, dans ma liste, la sécurité m'a dit je dois faire un audit, et tu crames du fric, tu fais bosser des consultants. Par contre, tu reviens un an après refaire un audit et tu vois que rien n'a changé.
Ouais, tout à fait.
Donc la motivation de l'audit est vraiment primordiale pour réussir à ce que l'audit soit transformé en quelque chose, une vraie plus-value.
Nous sommes d'accord.
Ouais, et en plus, il partait
des gens
zéro.
Qui sont dans l'état d'esprit de l'amélioration continue, qui ne demandent pas des tests d'intrusion, qui n'intrusent pas, qui demandent des audits dont les résultats sont réellement pris en compte. Et s'ils ne sont pas pris en compte, il y a une vraie réflexion de fond sur pourquoi on n'a pas pu les prendre en compte.
Oui, là, dans le cas que j'ai cité, effectivement, donc la DSI dont je parlais est effectivement sensible à la sécurité et oui, elle fait bien le boulot et voilà, et donc est en process, enfin, en constante amélioration. Non, c'était très intéressant. Après, j'aime pas trop parler de mes prises, c'est un peu.
Et puis un audit, ça donne une image à un instant T. ce qui est aussi important, c'est pouvoir mettre de la surveillance en continu pour pouvoir monitorer les aspects sécurité.
Qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'an prochain, pour la conf de l'an prochain?
Un peu plus de variété, un petit peu plus d'investigation numérique serait souhaitable pour l'année prochaine. Peut-être des présentations de formats différents, donc je sais pas, j'essaierai peut-être d'organiser un petit panel avec différents intervenants. Il y avait pas mal de hands-on, c'est-à-dire qu'il y a eu des démos, donc ça je pense qu'il va falloir conserver l'équilibre et qu'il y ait quelques démos, deux ou trois pendant la journée. Et puis on va essayer de rallonger un petit peu les temps d'échange entre les participants. Donc ça, je pense que c'est un des retours. Ça manque toujours dans les confs, les gens ont plus envie de discuter entre eux que d'écouter les conférences. Mais là, le timing était très serré. Toutefois, on a improvisé des pauses pendant la journée, donc c'était pas trop dur. Voilà, ça c'est ce qu'on souhaite modifier pour l'instant par rapport à cette année.
Alors vivement l'année prochaine.
Bah oui, notamment Hervé sera là dans la salle.
Ah bah, avec un peu de chance, j'arriverai à trouver des gens qui ont du temps pour faire des propositions de conférences.
Non, ce qui est sympa, c'est que c'est pas compliqué à organiser. Alors un, on est bien accueilli par Euratechno. On est bien aidé par les locaux là, notamment de l'université de Lille, et puis les quelques volontaires de l'association. Donc ça me conforte dans l'idée que si un événement est sympa sur le fond, il y a plein de gens qui sont motivés pour le faire avancer. C'est pas très compliqué à organiser. Il suffit juste de bien séquencer l'organisation, l'appel à proposition en amont, etc. Et ça se déroule bien. Donc ça, c'est assez motivant.
Et puis entre la présence du FIC, donc la participation de la région, la gendarmerie qui pousse beaucoup le FIC, les annonces d'industriels pour ouvrir des cybercentres spécialisés en cybersécurité et la présence de l'université, est-ce qu'on peut penser, espérer, je sais pas, que cette plaque lilloise va devenir, tout comme en Bretagne, du côté de Rennes, une plaque importante du cyber en France?
Alors, mon avis personnel, c'est que ce serait super que partout en France, partout où c'est pertinent, il y ait des plaques qui se développent, comme tu dis, donc autour des centres de recherche, autour des entreprises, que ce soit dans le sud, dans le nord, dans l'est, il y a des jeunes qui ont envie de s'investir dans ces questions. Il faut qu'ils aient des formations pas trop loin de chez eux, ou s'ils ont envie de bouger à l'autre bout de la France, qu'ils puissent en trouver. Il y a plein d'opportunités, il faut que ça se développe partout en France. On a parlé de BotConf il y a quelques semaines, on fait tourner BotConf en France aussi pour ça, pour rapprocher les conférences des gens et faire un peu bouger les choses. Donc pas que à Lille, pas que en Bretagne, pas que à Paris, mais aussi un petit peu partout en France. Donc voilà. Moi j'aimerais bien que ça se bouge partout.
Attention quand même à ce qui est dit pendant les présentations par les orateurs, parce que dans la salle il y a quand même de l'avocat, du gendarme, du policier. Et j'ai...
Ouais, Vlad est reparti entre deux gendarmes.
Non, mais bon, comme parfois tu peux prendre un peu quelques raccourcis dans certaines de tes actions. Bon.
Alors ça c'est intéressant sous l'angle où l'un des objectifs c'est de faire échanger plus toutes ces communautés là et justement non seulement s'habituer, se familiariser avec le vocabulaire des uns et des autres, les méthodes des uns et des autres et en apprendre, et puis aussi que les gens se connaissent mieux. Pour pas qu'on dise des bêtises quand on interagit, que les policiers, les gendarmes, les experts, les avocats, ils aient de meilleures interactions sur le terrain face à un incident. Venir à ce genre de conf, bah, ça leur permet de se dire, ok, je comprends de quoi on parle si par exemple je traite une plainte pendant une réponse à un incident. L'interaction est quand même plus facile si t'as vécu ce genre de conférence.
Et il y avait pas beaucoup de RSSI dans ton public.
Assez peu, mais c'est pas forcément la cible.
Eh ben c'était la question que j'allais te poser. Alors pas sur la cible, parce que bon, on sait que quand on organise une conférence, on essaye de parfois, enfin, on essaye d'attirer, mais tout le monde n'est pas forcément là. Hein. Il y en a qui préfèrent aller à d'autres conférences le même jour, par exemple. Et ça semble pourtant intéressant d'écouter ce qui s'est dit, de voir la réalité du terrain et de toucher justement ces investigations et ces réponses à incidents, parce que c'est peut-être quelque chose qui n'est pas encore très bien maîtrisé dans le domaine de la SSI aujourd'hui.
Ouais. Et tu sais pas quand est-ce que tu dois le mettre en œuvre, quels sont les types de prestations qui existent, etc. Mais là, peut-être que ce serait plus intéressant, comme il y a beaucoup de RSSI au FIC, peut-être qu'il pourrait y avoir deux phases, c'est-à-dire une phase un peu entre nous la veille du FIC, avec quelques RSSI qui sont les bienvenus, et puis pendant le FIC, un ou deux ateliers qui expliquent un peu les choses, qui soient plus didactiques, pour être plus accessibles à beaucoup de RSSI. Qui s'intéresserait à ces questions. Donc, on pourrait rebondir sur le programme du FIC pour ces publics-là. Mais ils sont aussi les bienvenus à Corinne, évidemment.
Donc, Eric, avant de conclure, un dernier mot ?
Ouais, on a eu l'occasion de faire deux petites annonces au cours de la conférence. Il y a de sympathiques jeunes femmes qui sont venues nous présenter, elles étaient présentes au FIC, un cercle des femmes en cybersécurité, qui est une association qui est en train de se créer et qui vise à développer la féminisation de nos métiers et l'attractivité, développer l'attractivité de nos métiers pour les femmes et puis les rendre plus visibles, etc. Et donc ça, je trouve que c'est intelligent et intéressant de développer la diversité dans nos métiers dans tous les sens, donc y compris vers les personnes de sexe féminin qui sont sous-représentées effectivement et dont certaines qualités peuvent nous apporter comme d'autres qualités des personnes d'autres diversités. Deuxième sujet, le CESIF lance un journal scientifique, le journal de la cybercriminalité et des investigations numériques en français et en anglais, et on trouve plus d'informations sur le site du journal sur journal.cecif.fr, cecif.fr.
Bon, et bien, chers auditeurs, on vous incite donc à participer l'année prochaine à cette conférence. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Espérons que vous avez trouvé l'épisode intéressant et nous vous disons à bientôt pour un prochain épisode. Salut.
Au revoir. Salut.
Au revoir. Au revoir.